Et on ne rêve pas, il est bien là à 5h13, ah oui, Emmanuel Lamarque, bah oui, en chair et en os pour le journal des Outre-mer. Et il n'y a plus de presse-papier à Mayotte.
Oui, ça c'est incroyable, Hélène. Au plus de presse-papier. Alors, aussi incroyable que cela puisse paraître, la presse nationale n'est plus disponible à Mayotte. Or, très certainement, le seul et unique département français d'outre-mer où les journaux métropolitains ne sont plus distribués. Une situation inimaginable. Mais depuis des mois, alors c'est un reportage de Fratei Youssouf Saïd, tenez-vous bien parce que c'est incroyable.
Plus de 4 mois que les amoureux de la presse écrite nationale ne peuvent pas satisfaire leurs envies. Aucune revue nationale en vue dans les bacs, ni magazine féminine et encore moins de journal papier. Laurent Canavat, patron de Soma Presse.
Il y a eu un certain nombre de points de vente qui ont décidé d'arrêter de distribuer la presse pour différentes raisons.
3 points de vente sur 6 refusent d'assurer la distribution de la presse nationale. Les journaux nationaux arrivent par avion une fois par semaine, ce qui explique leur coût exorbitant jusqu'à 15 euros et plus encore pour certains magazines, des prix fixés par les éditeurs et qui ne laisse aucune marge aux distributeurs. Laurent Canavat.
Ça nous a strictement rien rapporté financièrement. Ça nous a même peut-être coûté un peu. Il faut aller avec la camionnette en barge, et ça coûte cher, une fois par semaine en petite terre, et après faire la distribution dans les points de vente qu'il restait. Ça nous posait des problèmes de trésorerie. On avait de moins en moins de ventes, donc ça n'était plus rentable pour avoir une personne qui s'occupe de ça.
Au total, ce sont plus de 450 titres qui étaient vendus dans le département. L'arrêt des livraisons fait de Mayotte une exception comparée aux autres territoires ultramarins.
Oui, puis comparé aussi au département, ici en métropole, hein, non, parce qu'il n'y a pas de journaux papier dans un département comme la Gironde, on en entendrait parler. Premier salon du tourisme d'affaires en Martinique, José Manuel.
Ce salon se tient jusqu'à samedi, et c'est vrai qu'il est le premier, et aussi dans la commune de Rivière-Salée. Ce salon est aussi celui de l'événementiel et de la fête, et le tourisme d'affaires est une piste à suivre pour la Martinique, selon Nathalie Ramanantsoa-Frat, spécialiste en stratégie, qui témoigne au micro de Pedro Monerville de Martinique La Première.
La Martinique est probablement une destination de rêve pour le tourisme en général et le tourisme d'affaires en particulier. On se trouve sur une plaque tournante ici, qui est quand même la deuxième destination au monde en termes de tourisme et en particulier en termes de tourisme d'affaires. Or, il se trouve que dans cette destination-là, la Martinique, malheureusement, pour l'instant, occupe la portion congrue de l'échiquier. En tout cas, une des questions qui me paraît fondamentale d'aborder, c'est de savoir quelles sont les ambitions du territoire en matière de tourisme d'affaires en particulier. Est-ce que le territoire souhaite en faire un levier de développement économique? Alors certes, j'entends beaucoup dire que le territoire n'a peut-être pas envie forcément de se voir envahi par les touristes. Mais je me dis, il y a touristes et touristes. Le tourisme d'affaires n'est pas le tourisme de masse. Le tourisme d'affaires est le tourisme le plus lucratif. Et en règle générale, quand le tourisme est bien orchestré, il devient un moteur essentiel du développement économique.
Enfin, voici un partenariat médical à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Il s'agit d'une convention, Hélène, qui a été signée entre le centre hospitalier François Dunon de Saint-Pierre et le centre Jeanne Marquis à Rennes, un établissement spécialisé dans la lutte contre le cancer, afin d'assurer aux malades de l'archipel une meilleure prise en charge, un meilleur suivi. Comme le précise Louis Reverchon, il est le directeur de François Dunon au micro de Louis Duménil de Saint-Pierre-et-Miquelon, La Première.
Elle va ancrer dans la durée un partenariat qui a déjà été mis en place depuis le début de l'année 2017 avec le Centre de lutte contre le cancer de Rennes, avec notamment une équipe qui s'est particulièrement investie sous forme, dans un premier temps, d'une mission avec le docteur Pratt et donc Nadia Le Boulanger, qui est une infirmière du centre, et qui aujourd'hui aboutit enfin à la mise en place d'un vrai parcours de soins structuré et sécurisé pour l'ensemble des habitants de l'archipel qui souhaitent se faire suivre au Centre de lutte contre le cancer de Rennes. Chacun reste libre de son choix de se faire traiter dans l'établissement du Canada ou de métropole de son choix. En attendant, nous, il nous appartient de structurer une offre de soins sécurisée pour permettre enfin à nos concitoyens de venir se faire suivre à Rennes dans un premier temps et la suite de leur traitement au centre hospitalier François Dunon.
Ah ben voilà, ça c'est une bonne nouvelle, les Saint-Pierrais vont pouvoir se faire soigner. L'autre moins bonne nouvelle, c'est qu'on attend toujours à Saint-Pierre qu'on nous rallonge la piste de décollage d'atterrissage de 200 mètres, parce que les Saint-Pierrais, pour venir en métropole, dans l'Hexagone, c'est soit 30 heures d'avion, soit 14 heures d'avion par Montréal ou par Halifax. Alors que si on rallongeait la piste de 200 mètres, il faut le dire, Rennes serait à 4 heures et Paris à 7 heures. Et en plus, les Parisiens, on pourrait manger le homard de Saint-Pierre-et-Miquelon, donc français, au lieu de manger du homard canadien.
Voilà, on aurait tout à gagner. José-Emmanuel Lamarque, demain vous serez accompagné de Laetitia Gaillet dans vos chroniques littorales. Vous allez nous parler
Oh, demain, nous allons parler de la Fondation de la Mer qui travaille beaucoup avec l'éducation nationale et dès la rentrée, pour tous les élèves, on va leur apprendre la mer, la respecter et aussi la protéger.
Merci José-Emmanuel Lamarque.